Deuxième cours, les royaumes barbares. Alors, je vais essayer de vous montrer une carte.
Donc, une carte de l'Empire romain. De l'Empire romain tardif. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même carte administrative que celle du Haut Empire. Il y a trois fois plus de provinces. Alors,
donc vous voyez à peu près la tête qu'a l'Empire romain vers 400. Donc, on a une centaine de provinces. L'Empire est coupé en deux. Vous avez quatre préfectures du prétoire. Et puis se produisent plusieurs vagues d'invasions. La première, dans les années 370, ici, ce sont les Goths, qui ensuite, comme vous le savez sans doute, font un petit voyage qui leur permet d'aller faire le sac de Rome en 410, puis aller s'installer ici, dans la vallée de la Garonne, où ils fondent ensuite leur royaume, donc un royaume qui est d'abord aquitain et pas vraiment espagnol. Donc ça, c'est la première vague, les Goths, donc les Visigoths. Deuxième vague, en 406-407, c'est l'invasion de la grande coalition vandale, suève et des Alains qui franchissent le Rhin, vont s'installer en Espagne, donc ils vraiment saccageant tout sur leur passage. Puis parmi eux, les Vandales, en 429, traversent l'étroit de Gibraltar, s'emparent d'Hippone en 431. C'est là qu'Augustin est mort, il est mort dans Hippone assiégé. Puis en 439 de Carthage, c'est une date qui est assez peu connue, mais la prise de Carthage en 439, c'est la cause directe de la chute de l'Empire romain. Hein, parce que l'Afrique du Nord, c'est le grenier à blé de l'Empire, ce qui permet de nourrir la population de Rome. À partir du moment où vous perdez l'Afrique du Nord, vous amputez le budget de l'État de moitié. Donc, ils ont fait quatre tentatives, quatre expéditions pour essayer de récupérer Carthage, les Romains. Donc c'était vraiment catastrophique. Et puis ensuite, le sac de Rome par les Vandales en 455. Et pour terminer, donc à partir de 455 à peu près, chacun des peuples barbares installés sur le sol romain prend son autonomie et commence à s'étendre naturellement. Donc les 25 dernières années de l'Empire ont été très douloureuses. Et pour terminer, en 476, comme vous le savez, Romulus Augustule est déposé. Il était tellement faible que ça n'a même pas été la peine de le tuer. Tout ça pour vous dire, voici à quoi ressemble l'Europe. Donc ça ne s'appelle pas encore l'Europe normalement, mais bon. En 476, pour vous donner une idée, l'Empire d'Orient, lui, il va bien, il n'y a pas de souci à se faire pour lui. L'Europe occidentale, elle, en revanche, est vraiment très divisée, encore pour l'instant, en différents royaumes. Et encore, beaucoup des tâches que vous voyez ici, premièrement, ne sont pas sûres, et deuxièmement, ne sont pas des royaumes avec un roi unique. Vous avez parfois plusieurs ducs ou plusieurs rois qui gouvernent en même temps. On est en période d'ethnogénèse, c'est-à-dire que ces peuples, en s'installant sur le sol romain, se dotent d'une nouvelle identité et de nouvelles institutions politiques, en particulier d'une monarchie forte. Donc, le cœur de l'Empire, c'est-à-dire l'Italie, a gardé à peu près toute sa superstructure administrative. Donc, elle est juste passée clé en main entre les mains de Odoacre. Mais donc, c'est l'endroit le plus italien, qui est resté le plus romain de tout l'Empire. Vous avez le royaume vandale d'Afrique du Nord, qui lui aussi est resté relativement romain, et qui, grâce à sa flotte, contrôle toute la circulation maritime en Méditerranée occidentale. La superpuissance, ce sont les Visigoths, dont le cœur du pouvoir est en Aquitaine, mais qui colonisent progressivement l'Espagne. Là, ça, c'est une carte assez optimiste, puisque ça vous montre toute l'Espagne entre les mains des Visigoths dès 476. Ce n'est pas le cas. Hein. Ils sont encore en train de la conquérir, en fait. Vous avez beaucoup de poches de résistance romaine qui tombent les unes après les autres. Les Burgondes, qui sont les meilleurs alliés des Romains. Alors, à cette date-là, ils sont répartis en deux rois. Gondebaud et Godegisel, deux frères. Traditionnellement, depuis 450 à peu près, c'est le roi des Burgondes qui est le maître de la milice d'Occident, donc le chef d'état-major de l'Empire romain. Donc, c'est pas parce que c'est une tâche barbare que ce sont des ennemis des Romains. Bon. Les Alamans, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peuple qui n'a pas de roi, ils sont répartis en ducs, donc vous avez plusieurs ducs, qui contrôlent un très large territoire. Vous voyez que ça va de la Champagne jusqu'à la Bavière, donc c'est vraiment très très large. Bon. Là, il y a marqué « Royaume des Ruges ». Bon, en fait, ce n'était pas un royaume, hein, c'était des tribus différentes les unes des autres, avec plusieurs rois qui se sont emparés à peu près dans ces années-là de l'actuelle Autriche, qui était la province romaine de Norique, qui avait été épargnée par les invasions jusque-là. Là, vous avez le malheureux royaume de Suagrius, qui est un royaume romain, gallo-romain, qui, en fait, s'est retrouvé coupé de Rome par la présence des Visigoths et des Burgondes, qui donc empêchaient les communications avec Rome. En plus, ils ne voulaient plus payer l'impôt, parce que à quoi ça sert d'aller payer l'impôt en Italie pour une armée italienne qui ne va pas venir vous aider? Donc, c'est un royaume dissident de l'Empire romain. Et comme vous le savez, c'est celui qui se fait annexer par Clovis en 486. Et en définitive, vous avez nos Francs, hein, nos chers petits Francs, qui là sont une seule tâche, c'est tout à fait faux aussi, hein, c'était une, même pas une confédération, c'était plusieurs tribus différentes, avec mais sans doute une dizaine de rois différents, Clovis n'était que l'un de ces rois. On voyait en 476, et là vous avez Julius Nepos, hein, l'empereur déchu qui a gardé le contrôle d'une partie de l'Illyrie, et les Ostrogoths qui ont été fédérés là pour embêter, par l'Empire d'Orient, pour embêter Odoacre. Bon. Donc une situation complètement chaotique, hein. Vous avez une dizaine de peuples différents. Pour la plupart, ce n'est même pas des monarchies unifiées. Les Francs, ce n'est pas une monarchie unifiée. Les Alamans, les Ruches, tout ça, ce n'est pas des monarchies unifiées. Donc vous avez une situation qui est très complexe et qui évolue très vite. Maintenant, je vous montre la situation seulement 15 ans plus tard, à peine 15 ans plus tard. Alors j'exagère, allez, une cinquantaine d'années plus tard, mais dès 15 ans plus tard, c'était comme ça. La carte a un petit peu changé. Donc vous avez l'Italie ostrogothique, c'est-à-dire que les Ostrogoths qui étaient là se sont emparés du royaume d'Odoacre en 493. C'est une campagne qui a duré 4 ans. Et donc là, vous avez le royaume le plus romain, le royaume barbare le plus romain de toute la période barbare, le royaume de Théodoric, le royaume des Ostrogoths de Théodoric. Il y a encore le Sénat, il y a encore des consuls, donc vous avez tout l'appareil d'État romain fonctionne encore tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut jamais opposer trop bêtement les barbares et les romains. Les Burgondes sont encore là, mais pour 5 ans, hein, bientôt les Francs vont arriver, hein, c'est inéluctable. Bon. Les Francs ont quadruplé de volume, comme vous le voyez. Ils se sont emparés du territoire des Alamans, se sont emparés du royaume de Suagrius, et ils se sont emparés de l'Aquitaine à la bataille de Vouillé. Les Visigoths, eux, ont dû changer de jambe, hein, c'est-à-dire qu'ils ont dû abandonner l'Aquitaine chassée par les Francs et s'installer en Espagne, un territoire qu'ils ne contrôlaient pas, c'est-à-dire qu'ils ont dû le conquérir en même temps qu'ils étaient chassés d'Aquitaine. C'était un processus très violent pour les Visigoths de devoir changer de région capitale, et donc leur histoire est très mal connue pendant une trentaine d'années. La dynastie des Baltes s'effondre dans la suite de ce processus. Donc, la dynastie qui régnait chez eux depuis 418 n'a pas survécu à la défaite de Vouillé et au changement de territoire. Là, vous avez les Suèves qui essaient désespérément de survivre, mais qui vont inéluctablement se faire gober par les Visigoths. Et toujours les Vandales, pour 8 ans encore, et puis Bélisaire va arriver. Bon. Voilà, donc vous voyez que ça a déjà beaucoup évolué. Donc il y a beaucoup de gens qui ont disparu sur cette carte. Hein. Les Ruges se sont fait absorber, les Alamans se sont fait absorber, tous les malheureux rivaux de Clovis se sont fait exterminés. C'est ce que raconte Grégoire de Tours dans les 10 livres d'histoire, c'est que Clovis a massacré tous les autres rois des Francs, en particulier ses propres cousins, bon, et qu'à la fin, il se sentait tout seul dans son palais, puisqu'il n'avait plus aucun membre de sa famille en vie, donc il pleurait tout seul. Bon. C'est touchant, hein, on est tout à fait touché par la vie de Clovis. À la fin du siècle, vers 600, de tout ça, il ne reste plus que les Francs, les Visigoths, en Italie, les Lombards, qui pour l'instant sont là, comme vous voyez, mais qui en 567 envahissent l'Italie reconquise par les Byzantins. Et tout le reste, soit a été absorbé par ces trois puissances, soit a été récupéré par la reconquête de Justinien. Donc vous voyez que vous partez en 467, vous avez une dizaine de peuples différents, en pleine évolution. Un siècle plus tard, ça s'est stabilisé avec trois royaumes seulement, les Francs, les Lombards, les Visigoths. Et le reste, c'est les Byzantins. Donc voilà, première chose que je voulais dire pour introduire le thème des royaumes barbares, c'est que pendant un siècle, hein, vous avez une évolution de la situation politique très rapide, avec un processus compétitif impitoyable qui élimine, alors les peuples ne sont pas éliminés, c'est-à-dire que les gens ne sont pas exterminés, mais ils sont absorbés dans de nouveaux ensembles politiques. Pendant ce processus, l'identité des peuples barbares se transforme, ce qu'on appelle l'ethnogénèse. Ils se convertissent au christianisme, refoulent donc une très grande partie de leur tradition et de leur mythologie antérieure, ce qui forgeait leur identité. C'est vraiment un choc identitaire énorme qui se produit lorsqu'ils s'installent sur le sol romain. Et enfin, ils changent d'institution politique. Ils adoptent tous la monarchie unifiée sur le modèle romain, en récupérant tout ou partie, ça dépend de la configuration locale, tout ou partie de l'appareil d'État romain, et ils imitent dans une grande mesure les institutions romaines. Même le moins romain des royaumes barbares a récupéré quelque chose de Rome pour forger sa nouvelle identité et ses nouvelles institutions politiques. C'est la première chose sur laquelle je voulais insister au début de ce cours. Alors, grand A, la conversion. Petit 1, la coexistence. Les groupes barbares qui s'installent sur le sol romain entre 376 et 476 étaient des groupes de toute nature. C'était tantôt des tribus entières recrutées comme fédérées, c'est-à-dire comme soldats se battant pour l'Empire romain et installés sur une partie de son sol avec des revenus fixes. Mais tantôt, c'était des petits groupes, voire des individus. Dans l'ensemble, une caractéristique commune, c'est que ces groupes sont archi-minoritaires. Jamais les barbares n'ont représenté plus de 10% de la population totale de l'Empire romain. Donc les nouveaux maîtres, les nouveaux venus qui sont les nouveaux maîtres de l'Empire, sont une infime minorité de l'Empire lui-même. Ce qui crée une situation évidemment tendue. Vous avez de nouveaux chefs, mais ils sont très peu nombreux. Il a donc fallu que cette mince élite barbare trouve le moyen non seulement de cohabiter, mais de collaborer, de coopérer avec les Romains. Donc ça, c'est le côté barbare de la... Alors, le terme barbare est un terme savant, hein, c'est pas du tout un terme péjoratif quand on parle des royaumes barbares. Donc ça, c'est un côté du vis-à-vis. De l'autre côté, vous avez les populations romaines locales, donc les brito-romains, les hispano-romains, les gallo-romains. Les gallo-romains, enfin les romains locaux plutôt, ont la plupart du temps perdu l'élite politique, administrative, romaine, qui lui permettait de parler d'une seule voix. Donc ils n'ont plus pour porte-voix les fonctionnaires de l'État romain. Les nouveaux porte-parole de la population romaine, ce sont les évêques. Donc le principal vis-à-vis de ces pouvoirs barbares très minoritaires, lorsqu'ils s'installent sur le sol romain, ce ne sont pas des fonctionnaires, c'est les évêques, les chefs des communautés chrétiennes locales. Alors, encore une fois, tout ça est vrai dans une bien moindre mesure en Italie, où, en fin de compte, il n'y a pas eu d'installation démographique importante de barbares, hein, et où l'État romain et tout l'appareil d'État romain est resté en place jusqu'à l'effondrement du royaume de Théodoric sous la poussée byzantine pendant les guerres gothiques au VIe siècle. Mais ailleurs qu'en Italie, ce que je vous décris est vrai. Pour toutes ou pour partie. Dès le 5e siècle, les sources le montrent, hein, en particulier en Gaule, les cités romaines, livrées à elles-mêmes, s'en remettent à leur évêque pour les représenter et pour les défendre. Ce processus, hein, donc d'essor, en fin de compte, hein, de l'autorité politique de l'évêque, ce processus était facilité par le fait que l'évêque lui-même était bien souvent un aristocrate et un ancien fonctionnaire, donc un ancien dignitaire de l'Empire romain. Pendant cette période cruciale, hein, de l'histoire de la Méditerranée occidentale, vous voyez que l'aristocratie romaine abandonne la fonction publique qui définissait son identité, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, et se réfugie, pour ainsi dire, dans le clergé. La plupart des grands évêques, hein, du 5e siècle sont des aristocrates. C'est leur manière de continuer à servir l'État, de servir leur communauté locale, de rester dans une position de pouvoir que l'État n'est plus à même de leur offrir puisqu'il est en train de s'effondrer, et de servir de point de repère à une identité romaine menacée par les invasions et migrations barbares. Donc pendant cette période des invasions, hein, l'évêque, c'est vraiment la figure par excellence du defensor civitatis, hein, le défenseur de la cité, qui prend en charge la défense de sa communauté lorsque l'État et l'armée romaine ne sont plus capables de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est lui qui recrute des troupes pour défendre sa cité, qui organise la milice urbaine, qui fait entretenir les murailles, qui fait racheter les captifs qui ont été pris par l'ennemi, et même qui ajoute à tout cela une contribution spirituelle, c'est-à-dire que le surnaturel est mis au service, est mis à contribution, hein, dans la défense de la cité. Juste un exemple pour que vous voyez de quoi je veux parler, c'est l'invention des cérémonies des rogations par Saint Mamère de Vienne, c'est Sidoine Apollinaire qui décrit cela. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'une cité était assiégée ou menacée par une armée barbare, donc lorsque Vienne était menacée, Saint Mamère a inventé un nouveau type de mobilisation qu'il appelait les rogations, c'est-à-dire des litanies récitées en faisant le tour des murailles de la ville, pour, d'une certaine manière, investir la topographie de la défense de la ville d'une dimension sacrée, repoussant les forces du mal. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est dans une société traditionnelle pour laquelle le sacré, c'est quelque chose de matériel, de spatial et de temporel. Donc il y a des jours qui doivent être considérés comme sacrés et d'autres qui ne doivent pas, être considérés ainsi, des lieux, des objets, etc. Donc là, vous avez une topographie sacrée. Hein. Lors des rogations, l'évêque et son clergé font le tour des murailles pour renforcer la défense de la ville face aux forces du mal. Le jeûne, donc vous avez plusieurs jours de jeûne avant une bataille pour attirer la bénédiction de Dieu sur son armée. Et des processions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon. Donc, c'est cette combinaison hein, qui est à l'origine de ce qu'on appelle les rogations, hein, litanie, jeûne, procession, donc les litanies, c'est-à-dire l'invocation du nom des saints les uns après les autres, pour implorer le secours divin contre les barbares. Ces rogations apparaissent dans les années 460, donc vraiment au moment que je vous décrivais tout à l'heure, où les différents peuples barbares fédérés sur le sol romain, constatant que l'Empire n'arrive pas à récupérer Carthage concrètement, hein, que l'Empire est très faible, commence une politique d'expansion tous azimuts, en particulier les Visigoths, et donc là vous avez vraiment des attaques très fréquentes contre les cités romaines. Donc ça c'est pour dire que l'évêque est le défenseur de sa cité, celui qui incarne son identité. Bon. C'était facilité par le fait, comme je vous le disais, hein, que la plupart de ces évêques étaient des aristocrates. Je donne deux exemples. Sidoine Apollinaire, qui est évêque de Clermont-Ferrand entre 470 et 475, il appartient à une très grande famille de l'aristocratie gallo-romaine. Il a épousé la fille d'un empereur romain, bon, qui n'était pas encore empereur quand il l'a épousé, hein. C'était Avitus, qui était empereur très brièvement en 455, qui était un général d'Aetius, qui était un subordonné du célèbre Aetius. Bon. Donc Sidon Apollinaire, vous voyez, c'était quand même le gendre d'un empereur, c'est pas rien. Et Sidon Apollinaire a été, pendant un an, Prefectus Urbi, c'est-à-dire préfet de la ville de Rome. Donc, il était dans le top 10 de l'organigramme de l'Empire romain. Ça vous montre quand même la dimension du personnage. Eh bien, Sidon Apollinaire, après avoir été Prefectus Urbi, après avoir été préfet de la ville de Rome, lorsqu'il est revenu dans sa ville d'origine, Clermont-Ferrand, il a été élu évêque. Donc, vous voyez que le choix des électeurs de la communauté de Clermont-Ferrand dans cette période difficile, c'était de remettre le pouvoir épiscopal concrètement à leur aristocrate le plus riche et le mieux placé pour assurer la défense de la ville contre les Visigoths. Et pendant les 5 années qui suivent, Clermont-Ferrand est assiégé en permanence par les Visigoths et c'est Sidon Apollinaire qui gère la défense de la ville. À la fin, lorsque Clermont-Ferrand tombe entre les mains des Visigoths en 475, Sidon Apollinaire est emmené en captivité à Bordeaux et il lui a fallu plusieurs années pour récupérer la grâce hein, du roi des Visigoths, Eurique, évidemment, qui n'était pas son plus grand fan, puisqu'il lui avait résisté pendant 5 ans. Donc Sidon Apollinaire, c'est un bon exemple hein, d'un dignitaire qui a abandonné la carrière laïque pour devenir clerc. Il y a même un passage tout à fait saisissant où il écrit à un autre aristocrate qui lève une armée au même moment pour venir le secourir, où il lui dit, alors qu'il n'est pas encore évêque, où il lui dit « Viens nous secourir, et selon que tu y arriveras ou pas, nous abandonnerons ou notre patrie ou nos cheveux, abandonner nos cheveux. » Ça veut dire devenir clair. Donc il est en train de parler et quand il dit nous, il veut dire nous les aristocrates. Donc il décrit vraiment d'une façon très ramassée hein, cette espèce de passage massif hein, de l'aristocratie dans les rangs du clergé, comme bastion hein, de cette identité aristocratique. Nous perdrons ou la patrie ou nos cheveux. Bon. Et donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est Saint Germain d'Auxerre, qui est mort en 449. Germain d'Auxerre, c'est pareil. Il a été élu vers 420, on ne connaît pas la date, mais il vient d'une famille d'Auxerre, qui est une famille aristocratique, et avant d'être élu évêque d'Auxerre, il était duc, c'est-à-dire général, du Tractus Armoricus, c'est-à-dire le commandement militaire de l'Armorique, c'est-à-dire le commandement naval des flottes et des fortins côtiers qui défendaient le littoral des Gaules contre les pirates saxons. Donc c'était un général hein, qui avait une fonction militaire très précise. Et
Auxerre a choisi dans les années 420 un général, pas uniquement parce qu'il était, il était très gentil, très doux et très charitable. Hein. C'est parce qu'ils avaient besoin d'un chef. Hein. Et Saint-Germain d'Auxerre a été un chef. Et quand il raconte son voyage en Angleterre, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Hein. C'est pour... Alors, pourquoi je vous cite cette source-là, donc la vie de Germain d'Auxerre? C'est parce que c'est une des rares hagiographies du 5e siècle qu'on a. On a une vie de Saint-Germain d'Auxerre par un prêtre de Lyon, Constance, qui date de la fin du 5e siècle. Donc, c'est par un contemporain. Ça permet de très bien décrire l'ambiance du 5e siècle. Et donc Germain d'Auxerre est en particulier connu pour avoir fait deux voyages en Angleterre, donc en Bretagne, dans l'île de Bretagne, à un moment où on ne sait absolument pas ce qui s'y passe, il n'y a aucune autre source qui en parle, au moment où les Romains sont partis d'Angleterre. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on raconte la vie de Germain d'Auxerre. Et dans l'un des deux voyages, les pauvres Brito-Romains, qui n'ont plus de troupes romaines pour les défendre, lui demandent de prendre la tête de leur armée pour se battre contre les Saxons, contre les premiers mercenaires saxons qui viennent les envahir. Et donc vous avez Germain d'Auxerre, notre cher évêque, hein, qui prend la tête de l'armée bretonne contre les Saxons. Alors dans le récit de Constance, c'est une victoire miraculeuse, c'est qu'il se contente de crier « Alléluia » et les Saxons s'enfuient. Je crois moyennement que ça s'est passé comme ça. Je pense qu'il a plutôt remporté une victoire classique, hein, et que ça faisait mauvais genre, et que donc ça a été transformé en victoire miraculeuse avec un grand cri. Mais donc, vous voyez que c'est un général et il a été utilisé comme général. Et enfin, donc, la dernière chose que je voulais vous dire au sujet de l'évêque, c'est que l'évêque est important pour les communautés chrétiennes locales, qui les choisissent comme chef, bien sûr, mais il est aussi important pour les barbares. Parce que les évêques sont chrétiens, les barbares sont chrétiens aussi, et ont un, enfin pour la plupart, hein, et ont un, même s'ils sont ariens, ils ont un grand respect pour l'autorité de ces saints hommes. Puisque ces évêques, même s'ils sont un peu généraux sur les bords comme Germain, bon, ces évêques adoptent quand même le style de vie ascétique du saint homme du 5e siècle. Hein. Saint Germain d'Auxerre, on nous raconte qu'il il se couchait sur un lit de cendres, il a arrêté du jour au lendemain, quand il est devenu évêque, d'utiliser du sel, du vinaigre, tous les condiments possibles et imaginables. Donc il a vraiment mené une vie très ascétique. Évidemment, il s'est séparé de son épouse. Donc ce sont des hommes chez qui le charisme ascétique se voit. Hein, et ça, ça impressionne les barbares. Et pour cette raison, ils sont choisis comme arbitres ou comme médiateurs très facilement lors des derniers soubresauts de ces conflits entre Romains et barbares. Très souvent, ce sont des évêques qui sont choisis comme ambassadeurs pour des missions diplomatiques compliquées, parce que, et là vous voyez que ça ébauche une réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, parce qu'ils sont capables hein, de faire un lien, de dresser un pont, de jeter plutôt un pont hein, entre les Romains d'un côté et les barbares de l'autre, au nom de la religion. Hein. Et donc ils sont capables de parler une langue que les deux parties comprennent, celle de la paix, celle de la charité, celle de l'amour entre chrétiens. Et grâce à ça, ils gardent, ils ont vraiment une place de premier plan dans cette vie politique d'après, enfin de la chute de l'Empire romain. Petit 2, des questions là-dessus ? Non ? Le micro vous inhibe, je le vois. Bon. Petit 2, de la ségrégation à la conversion. Alors, pour le dire brièvement, il y a deux phases de coexistence entre les Romains et les barbares. Une première phase qui est plutôt une phase de ségrégation, et alors n'imaginez pas l'apartheid, hein, mais qui est quand même une phase de ségrégation, et une deuxième phase qui est plutôt une phase... enfin qui est pas plutôt, qui est complètement une phase de conversion. Mais d'abord, il y a une phase de ségrégation. Les barbares se sont convertis au christianisme lorsqu'ils sont entrés dans l'Empire romain. Les premiers ont été les Goths lorsqu'ils ont traversé le Danube en 376. Donc deux tribus, parce que quand on dit les Goths, n'oubliez jamais, quand on dit les Goths, on parle de plusieurs tribus différentes. Hein. Le grand historien des Goths, Peter Heaver, a dénombré une dizaine de tribus gothiques différentes. Hein. Donc c'est pas une tribu, les Goths. Hein. Donc les deux tribus gothiques, donc, et chacune avait non seulement un, mais plusieurs rois avant l'entrée dans l'Empire romain. Donc la monarchie unifiée, ça n'existe pas. Bon. Donc les deux tribus gothiques qui franchissent le Danube en 376, c'est-à-dire les Tervinges et les Gretinges, se sont convertis au christianisme arien à la demande de l'empereur Valens, à un moment où l'Empire était arien. Par la suite, à peu près tous les peuples barbares qui se sont installés sur le sol romain se sont convertis au christianisme aussi. Mais ils n'ont pas adopté, alors que là, pour le coup, aucun empereur ne leur demandait de se convertir à l'arianisme, hein, ils n'ont pas adopté le christianisme nicéen, qui était le christianisme non seulement des empereurs, mais de la majorité de la population. ils ont continué de se convertir majoritairement au christianisme arien. À votre avis, pourquoi? Je ne vais pas vous donner la réponse. Pourquoi les barbares se convertissaient-ils à l'arianisme et pas à ce qu'on appellerait nous le catholicisme? Oui?
C'est peut-être un intermédiaire entre le statut de barbare et le reste de la société.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que la doctrine arienne, vous voulez dire, était à mi-chemin entre le paganisme et le christianisme nicéen? Alors, vous êtes en partie dans la bonne direction, on va dire. Mais si ce que vous voulez dire, c'est qu'il est plus facile pour un barbare de croire à la doctrine arienne que de croire à la doctrine nicéenne, ça, je ne crois pas, par contre. Oui? Ah, vous êtes dans la bonne direction. Alors, pour ne pas être soumis au pouvoir des évêques, aurait-il été soumis au pouvoir des évêques? Parce qu'ils ont nommé des évêques ariens.
Vous avez dit que les barbares étaient en minorité, c'était un moment pour se distinguer.
Absolument. Très bonne réponse. Donc, première bonne réponse, c'est que effectivement, vous avez affaire à une petite minorité qui doit garder le pouvoir et garder sa cohésion pour ne pas être noyée dans la masse de Romains qui sont beaucoup plus nombreux, très riches et très cultivés. Donc, s'ils veulent garder leur cohésion, il faut qu'ils aient une religion différente. Parce que le principal vecteur de l'identité et de la sociabilité, c'est la religion. Donc, première réponse, c'est celle-là. Mais la réponse que vous esquissiez à l'instant était très intéressante aussi. Alors, ne pas être soumis au pouvoir des évêques. Les évêques n'ont pas un énorme pouvoir contre un roi. En revanche, qui pouvait-il redouter s'il se convertissait au catholicisme, au christianisme nicéen? Jusqu'à une certaine date, on va dire. Hein. L'empereur, exactement. C'est-à-dire que c'était la religion de l'empereur. Et donc l'empereur, ça rejoint ce que vous disiez, par l'intermédiaire des évêques, hein, pouvait exercer une influence néfaste contre eux. C'est la raison pour laquelle le christianisme nicéen ne s'est pas développé hors des frontières de l'Empire romain. C'est parce que, enfin, vous voyez, la Perse sassanide ne voulait absolument pas d'une église qui aurait été un sous-marin de l'empereur romain dans son empire à lui. Donc il accueillait à bras ouverts tous les hérétiques condamnés, en particulier les Nestoriens, qui ont fait une très belle œuvre de prosélytisme dans tout l'Orient, jusqu'en Chine et jusqu'en Inde. Bon, et qui, encore à l'époque de Marco Polo, vous avez des églises nestoriennes absolument partout, jusqu'à Pékin et jusqu'en Inde. Bon. Mais ils n'accueillaient pas de Nicéens. Eh bien, c'est pareil pour les barbares. Ils ne voulaient certainement pas être soumis à l'autorité de l'empereur romain par l'intermédiaire d'une église dont ils contrôlaient la majorité des membres.